Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Il est venu le temps de Nicolas!
Oh! Voilà! Hey! Bon matin, bon lundi!
Salut!
T'as de l'air en feu?
Je l'ai.
T'es gelé?
Hein? Ouais, je me réchauffe, fret en tabac.
Ouais, c'est pas vraiment froid.
C'est la période où tu dégèles, où justement, t'as des petites chaleurs parce que ça dégèle.
Puis je suis content que tu sois là parce que tantôt, on va parler de Ozzy Osbourne.
Okay.
Lui, il était des grands bouts. T'as pas dégelé de ce que j'ai compris? Non, non, il est pas mort.
Okay.
J'ai écouté un documentaire.
Personne ne le sait.
Les neuf vies d'Ozzy Osbourne.
Okay.
Fait que j'ai le détail qu'on sait pas. J'ai également écouté un documentaire sur la mort de. Bruce Lee.
Ah, je pensais que tu parlais Michel Barrette.
Non, Bruce Lee.
Il est décédé.
Lui, il est décédé en
1973.
Comment, Nico?
Et
c'est le seul athlète dont j'ai eu le poster dans ma chambre.
Ah ouais?
Ouais.
OK. Mais tu sais que...
On en avait bien d'autres, par contre.
Parce que toi, oui. Bruce Lee, tu sais pas c'est qui?
Oui, je sais c'est qui, là.
Ah, OK, tu sais c'est qui?
Je veux pas dire que je suis pas grande fan. C'est pas de ma génération.
Ton père triplé sur Bruce Lee?
Non, pas... Non. Juste, je connais ça.
C'est un fucké, mais c'est un bon gars. Il s'est fait enlever les glandes sudorifiques, lui.
Bon.
Parce que... Il était
c'est tantôt que t'en parles.
OK. Est-ce que Nico, t'es président de droits et ressources humaines?
Non.
Ah, c'est pas toi?
Ben, on me l'a pas dit, si je le dis.
OK. D'ailleurs, donc on va passer à notre invité. Je pensais que c'était toi. On va aller rejoindre la présidente de droits et ressources humaines. Ah ben oui, puis ça porte son nom. Marie-Ève Drouin. Bon matin, Marie-Ève.
Bon matin.
Je m'excuse pour les 37 minutes de retard.
Pas de problème.
Si t'étais mon employeur, est-ce que je suis congédié?
Non, pas encore. On aurait juste une bonne discussion.
Oh. Ouais. Oh. Oh. Pis c'est ce que tu recommandes à tes clients, j'imagine.
Exact.
Ils peuvent plus se permettre quasiment de congédier personne?
Ben, en fait, c'est qu'avant d'arriver à un congédiement qui est littéralement une peine capitale là, en droit du travail, il faut commencer par parler avec la personne. Parce que on peut des fois réagir de façon impulsive, mettre quelqu'un dehors pour réaliser après que moins finalement, peut-être qu'avec juste une bonne discussion, ça aurait pu faire l'affaire. C'est un peu comme dans notre couple. On divorce pas à chaque fois qu'on a une chicane.
Oh!
On remet les balises et on se parle. En tout cas, je vous le souhaite de pas vous divorcer après chaque chicane.
Est-ce que quand tu rencontres un employé pour une discussion comme celle-là, même si c'est une petite entreprise, tu devrais laisser une trace écrite? Ça veut dire, on a une discussion à propos de ton retard, mes 37 minutes de retard d'un matin. Est-ce que tu devrais m'envoyer un petit email, dire, mettons, genre, je suis bien contente de la discussion qu'on a eue sur ton retard de ce matin et que t'en aies pris bonne note. Je sais pas, j'essaie de maquiller ça un peu. Est-ce qu'on fait ça ou on n'a pas besoin de faire ça?
Ben, en fait, il faut savoir que tout ce qui se dit de façon verbale va être aussi bon que quelque chose qui est écrit. Par contre, nous, on doit garder une trace dans nos dossiers. Donc, si c'est notre première rencontre, on a une bonne discussion par rapport au retard, c'est possible pour moi de prendre des notes et de le déposer à ton dossier d'employé, par exemple, pour se dire que aujourd'hui, le 24 janvier, à telle heure, on a discuté dans mon bureau de ton retard d'aujourd'hui. Donc, ça va venir prouver un petit peu la discussion. Évidemment, si ça fait plusieurs fois qu'on jase, oui, on devrait y aller avec quelque chose de plus officiel. Toutefois, souvent, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, l'employé va avoir quitté avant de se rendre à la terminaison des mesures. Donc, l'employé va finir par dire, OK, je pense que je ne suis pas faite pour travailler ici. Je vais quitter, je vais m'en aller ailleurs. Donc, souvent, quand la situation ne se corrige pas d'elle-même, on va avoir un départ d'employé. Ou on va finir par mettre fin à l'emploi, mais on va avoir tout au dossier pour pouvoir le justifier.
Parce que moi, Marie-Ève, si j'avais, mettons, affaire avec toi, si j'avais une entreprise également, je trouve actuellement ce que je trouverais difficile, puis je sais pas si tu pourrais m'aider pour ça, mais ce serait de tracer la ligne à savoir à partir de où, à un moment donné, là, tu sais, mettons un employé, mettons qu'on est au service à la clientèle, on change de domaine, puis que l'employé bourrasse tout le monde, puis que finalement, qu'il soit là ou pas, t'es quasiment au semaine d'être fermé, il vend rien parce qu'il bourrasse le monde, mettons. Tu sais, il y a un seuil où ça vaut pas la peine de continuer, là, tu sais, mais tu le gardes pour avoir quelqu'un, mais en réalité, si ça peut nuire plus qu'aider.
Ça ça peut nuire que plus qu'aider, effectivement. Puis, faut pas oublier que dans certains cas, il y a beaucoup d'employeurs qui n'osent pas parler de peur, justement, que l'employé s'en aille parce qu'il n'est pas rendu à cette ligne-là. Il dit, ben, au moins j'ai quelqu'un, puis il n'est pas toujours comme ça. Il y a des journées où il part mal au client, mais des journées où il est excellent. Par contre, ça l'empêcherait pas d'avoir une bonne conversation. La plupart du temps, les employés réalisent même pas ce qu'ils font parce que personne n'aura jamais dit, parce que tout le monde a peur de leur parler, justement parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais si on s'assoit avec l'employé, qu'on a une discussion franche sur ça m'inquiète actuellement, je comprends que tu as des journées plus difficiles, mais ça a un impact direct sur le service à la clientèle, les ventes de la journée. Habituellement, les gens collaborent bien parce qu'ils veulent la réussite de l'entreprise. Ils sont pas là pour détruire l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Par contre, il faut avoir une discussion franche sur c'est quoi les impacts de dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'aujourd'hui, même si c'est une mauvaise journée, tu demeures avec une belle attitude pour les clients, quitte à ce que si le matin t'arrives puis là tu te sens vraiment dans un autre état, prends 10 minutes, je vais prendre ta place pour revenir, pour pas que ça ait d'impact sur la clientèle. Par contre, si on n'a pas cette discussion-là, ben ça devient quelque chose de toléré en entreprise. Et évidemment, ça va grossir parce que ça va être toléré. Les collègues à côté qui vont voir ça vont dire, on peut arriver à être bourré, t'envoyer un peu promener la clientèle, ça va bien passer. Donc, ça fait un espèce d'effet d'entraînement. Puis là, c'est là que la situation devient souvent plus tolérable pour l'employeur. Puis qu'il dit, ben, finalement, je serais mieux de fermer mon entreprise aujourd'hui, de pas avoir d'employés. Parce que, de toute façon, là, c'est rendu de bordel.
C'est ça. Puis l'influence sur les autres employés peut être tellement rapide que ça va créer des problèmes majeurs. Marie-Ève, évidemment, dans l'ère où on est rendu là, il y a des meetings qui se font maintenant par Zoom. Ça existait même pas quoi il y a 10 ans. Donc, les entreprises ont dû s'adapter à ça, puis se tourner vers... avant, on se retournait vers les ressources humaines. Maintenant, c'est quoi ces Zoom? Parle-moi de comment on démêle tout ça.
Bien, en fait, il y a 10 ans, on se remet un petit peu, là, il y a 10 ans, quand j'ai débuté ma pratique, on parlait beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Moi, quand j'ai débuté aux ressources humaines, tous les gestionnaires disaient ça, c'est un cas RH, on va faire gérer ça par les RH. Donc, les gestionnaires ne développaient pas leurs compétences en communication, en gestion des ressources humaines, parce qu'il y avait un département qui s'appelait le département des ressources humaines qui avait géré ça pour eux. Aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, on se rend bien compte que tout le monde doit être bon avec les employés, doit savoir communiquer, doit être bon en ressources humaines et se faire épauler aux besoins par un consultant en ressources humaines ou leur département de ressources humaines. On devient plus là pour les accompagner, les diriger. Aujourd'hui, ce qui s'en vient, un des plus gros changements qui, moi, me frappe dans ma pratique, c'est tout le changement technologique. Donc, au mois de décembre, il y a une grosse transaction de Nike pour d'acheter une entreprise qui va fabriquer des souliers virtuels pour le Metaverse. Qu'est-ce que ça dit? Là, on voit tout le Metaverse, on voit ça loin, on pense que c'est une histoire de geek, mais ça s'en vient. Donc, il y a beaucoup de changements technologiques.
Faut expliquer à Stéphane,
je ne sais même pas
perdu.
De quoi vous parlez. Moi, je suis perdu, là, j'étais dans le bois en train de me promener avec mon panier.
Au mois de décembre, Nike a acheté une compagnie qui s'appelle Artifact, qui s'engage à fabriquer des souliers virtuels, donc des NFT. Donc, c'est des souliers qui n'existent pas, qui vont être virtuels. C'est une compagnie qui a été créée en 2020 et qui a été évaluée juste un petit peu avant la transaction à 33 millions de dollars.
Mais c'est quoi
donc,
des souliers virtuels,
Pour
acheter du linge virtuel. Vous aimerez pas ça quand je vais arriver ici avec du linge virtuel?
En fait, c'est des souliers dans lesquels on va pouvoir, dans un monde virtuel qu'on va pouvoir porter, qui vont être uniques à nous. Donc, tout ça, c'est juste pour démontrer que, même si on le voit pas dans le quotidien de nos vies actuellement, le numérique ou le monde dans le numérique prend une ampleur de plus en plus grand dans nos vies. Maintenant, ce que ça a comme impact dans les entreprises, et moi, je le vis actuellement, c'est qu'on s'en va vers la plus grande gestion de changement que les entreprises n'auront pas à faire, c'est-à-dire de changer vers le monde numérique. Donc, on le vit actuellement, on automatise beaucoup de postes ou de fonctions parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, maintenant, il y a des caisses électroniques où on commande un peu comme les bornes au McDonald's, où on commande notre nourriture parce que ça enlève quelqu'un aux caisses, par exemple. Ça veut dire que notre environnement va devenir très technologique dans les prochaines années et malheureusement, aujourd'hui, c'est la plus grande faiblesse des organisations. On ne parle pas d'ici d'être tous des développeurs, mais d'être curieux de prendre des initiatives en technologie. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont retournées en télétravail dernièrement avec les mesures sanitaires de Legault. Et il y a beaucoup d'employés, où moi j'étais témoin, où les gens ne sont pas capables de brancher leur écran à la maison. On parle d'un écran d'ordinateur, de prendre ton écran de bureau et de le brancher correctement dans ton ordinateur rendu à la maison. Donc, on est loin de la journée où on va faire nos entrevues avec des souliers virtuels sur le bord de la plage, puis on va pouvoir se rencontrer, se serrer la main parce qu'on va avoir des gants virtuels qui vont nous permettre de ressentir la poignée de main à l'inverse. On est très loin de ça. Donc, tous les petits changements technologiques qui vont se faire, si on n'a pas préparé nos employés, si on les a pas formés, si on les a pas outillés à dire tu dois commencer à être curieux, à aller fouiller sur Internet si c'est quelque chose qui fonctionne pas, voir c'est quoi le problème, tenter de le résoudre avant d'appeler ton département des TI ou ton consultant TI, ben ces entreprises-là, dans 10 ans, ils vont avoir autant de difficultés que les entreprises qui n'ont pas su s'adapter aux nouveaux ressources humaines il y a 10 ans qui aujourd'hui vivent la pénurie de main-d'œuvre.
Et puis, je suis certain qu'il y a du monde qui t'entend là, dire que ces souliers virtuels sont folles, elles. Non, non, mais tu sais, dans le genre, on va pas là-dedans, là. Mais il y a 10 ans, pour reprendre ton exemple, je me souviens d'avoir dit à des chums qui avaient des business, crème pas de site Internet, pas besoin de ça. Moi, le monde vient ici, puis, tu sais, pas de page Facebook, pas de site Internet. Tu sais, il y a 10-15 ans, il y a bien des commerçants qui disaient qu'ils avaient pas besoin de ça. Puis aujourd'hui, avant même de faire ton ouverture officielle, ça te prend un site Internet fonctionnel et peut-être même avec des transactions possibles si tu veux suivre la parade.
Et ça règle une partie aussi de distance. Donc, on peut vendre un magasin maintenant qui est à des kilomètres de distance du lieu de résidence, peut vendre à plusieurs personnes au Québec, au Canada, à travers le monde. Donc, ça va être la même chose. La pénurie de main-d'œuvre, les entreprises, imagine un village en Bellechasse qui a de la difficulté à recruter et qui est là avec tout ce qui est virtuel, avec la technologie, va être capable d'embaucher quelqu'un qui est basé à Toronto, qui est basé à Montréal, par exemple, et que ça règle entièrement son problème. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à le faire, mais les entreprises ne sont pas rendues au niveau technologique pour pouvoir faire un transfert ou un virage complet des postes vers le virtuel. Mais on peut penser dans quelques années que la présence hybride qu'on voit chez les employeurs, les gens vont prendre leur dîner avec un casque, un peu comme un holocuste, vont prendre leur dîner, ils vont être dans une cafétéria virtuelle et ils vont tous rencontrer leurs collègues comme s'ils étaient assis dans la même cafétéria.
Ouais, alors que je pense que ça s'en va là. Je sais pas.
C'est, en vrai, Black Mirror. Ouais, c'est qu'on peut écouter ça là, sur Netflix. Allez écouter ça. C'est
sidérant. C'est ça. T'es rendu loin de tabarouette. Je comprends que ça s'en va vers là, mais tu comprends que les deux pieds au sol en 2022, c'est dur à imaginer en joie le vert. Là.
Effectivement. Par contre, ce qui est facile à imaginer, c'est que les entreprises actuellement se virent de plus en plus vers... Nous, on a des appels d'entrepreneurs qui nous demandent « Écoute, Marie, je dois faire plus avec moins de personnel. » Comment faire pour optimiser mes méthodes? Comment faire pour identifier les tâches à valeur non ajoutée qui pourraient être remplacées par de la technologie pour me permettre de pouvoir continuer à faire virer mon entreprise alors que j'ai de la difficulté à recruter?
C'est ça. Mais il y a quand même des domaines. Je veux dire, le gars qui a besoin d'un chauffeur de troc, ben malgré que ça aussi, ça s'en vient avec des autos autonomes. Peut-être que c'est ça. Ça coûte très cher. Ça avance tranquillement. Mais effectivement, que peut-être va arriver un jour où on travaillera plus personne parce que on va s'être auto-remplacé. Ben l'animateur du matin va être virtuel. Ah, il l'est déjà.
Mais tout arrivera pas du jour au lendemain. L'idée est de dire le changement va s'installer progressivement. Mais c'est dès maintenant que les gens doivent commencer à valoriser, à changer leur culture d'entreprise, de dire on va rester à l'affût des nouveautés, de comment on peut optimiser nos méthodes, comment on peut apprendre à nos gens à devenir de plus en plus autonomes pour que la journée où ce changement-là va s'opérer, on soit prêt. Parce que évidemment, ça sera pas une coupure du jour au lendemain. On verra pas des autos voler dans le ciel comme on s'imaginait quand on était plus jeune. Il y aura pas une coupure du jour au lendemain. Mais tranquillement, pas vite, le progrès, si les gens restent à l'arrière et disent c'est dans plusieurs années, c'est un autre monde, on n'est pas rendu là, ben un jour ou l'autre, on va y arriver et là, ils vont frapper leur mur.
Merci beaucoup, Marie-Ève Drouin.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Marie-Ève Drouin, présidente de Drouin Ressources Humaines, ici à Québec. Donc, ça semble... Je sais pas. Moi, je suis peut-être trop vieux jeu, mais, tu sais, j'entendais l'autre jour Alexandre Tétrault commander, mettons, du Uber Eats, où je le disais, là, je sais pas quelle plateforme il utilisait, puis lui, il voulait vraiment pas parler à personne. Tu sais, puis il était déçu parce que le gars l'a appelé pour savoir s'il était là ou
pas. Ça se passe à sa
élection. Non, mais il y a du monde. Mais alors que moi, je suis un peu encore à l'inverse. Puis, tu sais, des fois, j'aime mieux parler à du monde. Tu sais, vous le savez, là, Pierre, Nicolo me donne un coup de main. On cherche une caméra parce qu'on aimerait peut-être ça reprendre le Twitch. Puis là, tu sais, mais eux autres, ils ont fait des recherches Internet. Moi, je suis pas capable. J'ai dit, moi, il faut que je parle à quelqu'un. J'ai trop de questions.
Tu vas être conseillé par une personne pas virtuelle.
Ouais, c'est ça. Puis je suis allé. Hein? Oui, puis je me suis rendu au magasin. Okay. Puis là, j'ai vu le gars. Puis là, il m'a dit, ah oui. Là, j'ai dit, je cherche une caméra. Je veux diffuser sur Twitch, sur un réseau social. Puis là, j'ai catché, parce que c'était le deuxième magasin que je faisais, que... Une caméra, comme tu m'as parlé, là, sans ordinateur, c'était très rare. Fait que même on m'a dit que ça existait pas, mais je savais que ça existait, tu me l'avais montré. Mais j'ai un ordinateur qui sert à rien. Fait que j'ai dit, trouvez-moi une caméra qui se connecte à un ordi, puis on va être correct, on va diffuser avec ça. Fait que le gars, il dit, OK, il dit, attends un peu. Puis là, il a pris son petit micro, sur son collègue. Caron, es-tu disponible?
Caron.
Puis là, Caron, je sais pas ce qu'il a répondu. Il dit, attendez-moi, monsieur, je reviens. Le gars, il est parti.
Monsieur Caron.
Je suis encore là, il est pas venu. Que tu ris de tabac. Moi, j'attendais là.
Mais je calais, je riais.
Ma blonde était en train d'essayer des bikinis. Puis moi, j'étais là, puis j'attendais à prendre une caméra Internet. Puis ils sont jamais revenus.
T'es loin, Caron.
Un iPhone, mettons, ça fera pas.
Oui, mais c'est parce que mon iPhone, je l'ai besoin.
Non, je te dis un autre. Tu cherches une caméra.
Mais c'est plus cher qu'une caméra.
Ouais, mais je sais bien.
Il faut réinstaller le setup à tous les jours.
Le iPhone, tu le trouves facilement, là?
Ben non.
Moi, tu peux en acheter un matin.
C'est vrai que l'iPhone.
Non, l'iPhone, ça fonctionne.
Un vieux sel, tu ça, toi, à maison?
Non, un vieux, mais la caméra n'est pas assez bonne. Okay. Tu sais, j'ai mon iPad. Je pourrais mettre mon iPad, là. C'est vrai que je pourrais amener mon iPad, mais...
Tu ressens ton iPad? Parce que la caméra d'un iPad, c'est pas vergeux tout le temps.
Non, t'as fait.
Ouais, la caméra... Chez nous, là, je filmais plus avec mon iPad parce que la caméra était pas assez bonne.
Ouais, non.
Puis, de toute façon, là, j'ai changé de cellulaire.
T'es ordonné, hein, c'est ça. Si t'es avais pas ordonné, on aurait pu en prendre un, mais...
Il faut quand même
refaire le setup à tous les jours.
Ça, je vous le dis, là, ça a tout changé, hein. Si vous changez de cellulaire, là, mettons que t'as signé ton contrat, tu sais, comme Ray, t'as signé un contrat de 2 ans, mettons, pour ton cell.
J'ai un contrat, c'est-tu?
Et à cette heure, là, ma blonde est allée hier pour changer de cellulaire parce que ça finit le 31 janvier, son affaire. Fait que là, elle passe d'un XS, tu sais, qui est ordinaire. Elle a accès à un 12 ou un 13. Ça y coûte 5 piastres de plus par... Pour un 13, là, c'est 5 piastres de plus par mois, mettons. Mais il faut qu'à la fin... elle redonne, ou qu'elle donne 350$ de plus.
À la fin du contrat.
Ouais, il récupère. Avant, il récupérait pas les cellulaires. Moi, mes enfants ont toujours eu mes vieux cellulaires. Puis elle a fait la même affaire. Là, elle est rendue devant un dilemme parce que là, les vieux cellulaires ne suivent plus avec les nouvelles applications. Fait que, je pourrais m'acheter un cellulaire, un 12.
Achète-toi une caméra.
Non, il y a sûrement moyen de faire mieux que ça.
Ah oui.
Ouais. On va se parler.
Ben, en fait, celle que t'as trouvée.
On pourra le faire en ordre. Que vous avez à cacher au monde,
rien. Celle que t'as trouvée, Nico, c'est la seule qui a un jack. Un jack 1.8 en arrière.
Un jack combien, cette caméra-là?
Ça me prend un jack 1.8.
C'est pas un quart, c'est un
8. 400?
Ouais.
C'est pas si cher.
Souvent, on prend un quart, nous autres.
Fait que. Ben, regarde, Sophie en a une à vendre, elle. Mais il n'y aura pas de jack de son dessus. C'est ça qui va arriver.
C'est ça, Sophie.
Fait que, il y a une GoPro, je n'ai une, moi, qui ne sert pas chez nous.
Il n'y a pas de jack de son. C'est vraiment le problème, c'est la source audio. Ouais, ça prend un jack.
Ruth, où y a-tu des problèmes que tu voudrais qu'on te règle?
Oh boy. La météo, moins 22, comment est-ce qu'on règle ça?
As-tu des problèmes de grosseur de pénis?
Sophie nous a envoyé un pouce.
Elle a envoyé un pouce?
Ah, je voulais dire, c'est correct.
Ray, la question?
Non.
Okay. Pascal, as-tu des conjoints qui avaient des problèmes de grosseur de pénis?
Ou as-tu des problèmes de pénis actuellement?
Moi, j'ai des problèmes de pénis actuellement.
OK. Nicolo, as-tu de la misère avec la grosseur de ton membre?
Non.
Non, tout se passe bien?
Mais même si j'avais un problème, Stéphane, c'est pas à toi je penserais, hein, pour la solution.
Non, mais c'est pas à moi que je veux que tu penses.
Je l'aurais pas
c'est un gars qui a eu... qui était pas bien. Ouais. Avec puis en même je vais laisser Pierre vous le raconter parce que
c'est Pierre.
C'est le petit Jérémy qui m'a envoyé ça.
Non.
Fait que, puis il m'a envoyé un texto en me disant, l'élimination naturelle, ça fait du bien des fois.
Il n'a pas le chanteur.
Ouais. Non. Le petit Jérémy, c'est un de mes amis. C'est
Jérémy, c'est ça.
Fait que lui, il m'a envoyé ce texte-là. Fait que c'est un gars...
sélection naturelle, j'adore
ça. T'as-tu
vu ça,
Nicolas? Tu l'as pas vu, ce travail-là?
Non, ça me dit rien.
Tu sais, c'est un gars qui semble pas bien avec la densité de son pénis.
Pourquoi on en rit de ça?
Parce que tu vas comprendre.
Parce que, mettons qu'il y a des produits en vente sur Internet. Enlarger your penis.
Enlarger
your
penis.
Enlarger
my friend. Oui, mettons que c'est en vente. La pompe.
Fait que, oui. Il y a toutes sortes de produits. Puis lui, un peu comme Ray le disait plus tôt dans l'émission de nos parents, il réparait tout avec du tape. Ou, tu sais, il y a la quincaillerie. Tu réparais tout ce qu'il y avait avec la quincaillerie.
Tape électrique.
Fait que lui, il est allé dans son canac préféré. Puis il a décidé de régler son problème d'engin qui manquait de dureté, de grosseur et de...
Et ça semble vrai parce qu'on trouve ça cette histoire dans Urology Case Report, donc le journal de l'urologue.
L'humain est assez fou pour.
Donc le gars a eu un problème et c'est un urologue qui a dû le régler.
Oui.
Puis comprenez-moi que j'en ai encore mal au gosse, pas d'avoir essayé, mais rien que d'y penser.
Fait qu'écoute bien, moi te raconte
ça. À ma visite dans au septième ciel, elle m'a montré des baguettes, des tiges. Que certains hommes, ils en vendent une par semaine, que des hommes s'achètent pour se rentrer dans l'urètre. Et que ça là.
J'ai mal, j'en ai pas.
Et ça crée une excitation sexuelle.
Ben là.
Moi, tout, t'as mal au gosse pis t'en as pas, c'est ça que tu dis, Pascal? Mais c'est vrai, quand je l'ai vu, elle a voulu m'a montrer, j'ai même pas voulu toucher au paquet. Tu sais, en peur de l'échapper de 40 là tout seul. T'sais, un gars prend pas de chance.
Oh oui. Fait comme il voit souvent à l'urgence d'ailleurs, je suis tombé dessus.
Voyons, Nicolas, on dirait que t'as perdu toute ta bonne humeur.
Il est blanc.
J'ai juste perdu toute ma bonne humeur.
T'as peur, Nicolas? T'as pas fini.
Check ça, ce qu'a fait le petit génie, lui.
On se parle d'un homme de 45 ans, un Américain. On n'a pas son nom. Dommage. Parce qu'on le dirait.
Donald, on dit ça s'appelle Donald.
Ah, c'est bon, ça.
Il a essayé de régler ses problèmes érectiles en rentrant divers objets dans son urètre. D'abord, mais là, on va y aller avec le principal. Il a décidé d'entrer une paille. Mais tu sais, une paille qui est attachée à une canne, là. Tu sais, genre pas.
Tu sais, une paille, là.
Oui, j'ai compris.
Tu sais, là. Pas le petit tube. As-tu déjà pris du WD-40?
Ouais, c'est exactement
du gigolo,
ça. Ouais.
Tu sais, c'est une paille rouge.
Stéphane.
Là, est un petit peu plus grosse. Mais quand même pas une paille pour boire du vodka canneberge, là.
Non.
Pas la paille à slouch.
Non, c'est le petit tube. Rich, c'est de quoi vous parlez? Le petit tube, là, pour mettre une canisse de
WD-40. Oui, on a compris.
Puis t'as raison, c'est pas du WD-40. C'était plutôt attaché à une canne de foam isolant. De mousse isolante. Je continue?
Oui. Avez-vous déjà utilisé de la mousse isolante?
Oui.
Pas sur mon pénis.
Non, là, chez moi, le pénis. Non, mais avez-vous dans la vie déjà utilisé?
Oui, j'ai fait un tour de tuyau. Toujours pas mon pénis.
Puis t'as mis un gant. Tu mets les. Tu sais, il vient. Quand tu ouvres ces boîtes-là de bonbons.
Moi, j'essaie de pas le taponner. Tu sais, je le mets autour d'un tuyau. Fait que tu.
Oui, mais il te recommande dans le couvercle, toujours des gants transparents.
OK.
Parce que si ça colle à la peau.
Ça colle.
Tu sais, deux ans. Et deux ans, tu vas avoir de la myofe entre les doigts pendant deux ans. T'sais, ça part pas, c'est impossible. Faut le laisser sécher et le râper ensuite.
Ça prend l'expansion, ça va épouser tous les raccoins vides aussi. Ben oui, tout ça,
mon ancienne maison.
C'est une mousse, là.
Mon salage, il coulait à mon ancienne maison. Puis je mettais de la mousse de même, là, dans le crack.
Puis là, ça venait filer.
C'est fort, en plus, ça pousse.
Oui. Oh, oui.
Ça prend beaucoup d'expansion. Alors lui, il a utilisé la paille de ce produit, puis il l'a inséré dans son urètre.
Ben oui, il s'est dit, ça va peut-être aider. L'affaire, c'est que son ou sa partenaire, c'est pas précisé, a malencontreusement accroché le bouton. Ce qui a fait, qu'a eu comme impact que... sa vessie et son urètre se sont remplis de mousse isolante. Ce n'est pas fini. L'homme a attendu 3 semaines avant d'aller chercher de l'aide chez le médecin.
3 semaines?
Pendant ce temps...
Voyons, c'est un point important.
Ça veut dire que la mousse n'était pas étanche, ça devait s'écouler un peu à côté.
On me dit que pendant cette période, il a eu de la difficulté à uriner et il a rencontré de la douleur. Notamment, il urinait du sang. Les médecins ont été capables d'enlever la mousse de sa vessie. Cependant, dans son pénis, c'était bien accroché. Alors, on a dû faire une urétrostomie, je ne sais pas trop comment on dit ça, et cette procédure...
C'est quoi ça? C'est l'ablation de l'urètre?
C'est probablement une incision dedans.
Sérieux, j'ai juste bu un genre de jus.
Ah,
là, puis je
l'ai le détail.
J'ai mal au cœur, là.
On coupe. Tu sais, le spa, là. Spa en arrière, puis spa en avant, mettons, là. On coupe.
C'est pas le fun non plus.
C'est pas le fun non plus. Et ils ont enlevé le foam de cette façon-là, la mousse isolante.
Ils ont tiré sur
on nous dit que la chirurgie s'est bien passée.
Ah oui.
Aussi bien qu'une chirurgie au pénis peut se passer. Peut bien se passer.
Il n'y a plus de pénis?
Il n'y a plus de pénis, quoi.
Ça s'est bien passé, mais dans les circonstances, dit-on. Et là, il va y avoir une chirurgie pour...
Qu'est-ce qu'il a pensé de dire, hey, moi, si j'injecte de la mousse là, elle va se répartir autour, tu sais?
Il n'a pas pensé.
Stéphane, quelqu'un nous écrit à l'urgence à Québec, c'est arrivé la mousse isolante. Avant que Pierre raconte l'histoire, quelqu'un nous textait que c'est arrivé à Québec avec la mousse isolante, puis ça a monté jusqu'à Vessie. Fait que c'est pas le premier gigolo, là.
À l'urgence,
comment il s'appelait?
À l'urgence, on l'appelle. On l'attend raconter des bonnes, d'après moi.
Ah, je sais. Des affaires dans le cul, là, il y en a plein, là.
Dont des hamsters.
Hamster, c'est drôle en temps, mais c'est faux. C'est pas vrai.
Ah oui, toi, tu trouves que c'est faux, toi.
Pas si je trouve, c'est...
Ça n'a pas été prouvé que c'était faux, ça. C'est toi qui crois pas qu'il y avait quelqu'un qui
l'avais lu.
Non, parlé au hamster.
Je l'ai tellement fait jouer, cet extrait-là.
Juste vous dire que si jamais il a accès à la reconstruction du pénis, on dit qu'il va devoir passer une évaluation psychiatrique juste avant.
Bonne idée, ça.
Puis avant, puis après.
C'est précisé.
Je
l'abonnerai au programme d'évaluation psychiatrique.
Puis, je vous invite, là, malheureusement, c'est pas très radio, mais regardez l'image qui vient avec l'article.
Non.
Quoi? C'est de la mousse isolante autour d'un tuyau.
C'est une photo d'un gars qui fait de la plomberie avec de la mousse isolante. Fait que, bon, c'est beau.
Stéphane, je voulais juste dire aux gens...
Je suis infirmière en chirurgie et j'ai déjà vu un dentier dans le cul.
Je voulais juste dire aux gens que c'est Stéphane qui est arrivé avec l'histoire.
Mais excuse, j'aurais dû aller avant.
Est-ce que tu te mouches?
Oui. Je chaîne du nez tellement c'est fort.
Quelqu'un qui dit qu'avec l'acétone, la mousse isolante,
c'est ça peut fondre. Puis un autre auditeur écrit que c'est un cas isolé.
Oh non!
Il y en a qui disent qu'on sert à rien.
Aye, ouais.
C'est vrai.
Ouais. Ouais. Et où la COVID quand on a besoin d'elle?
On fait rire, nous, au moins.
Ouais.
Aye, mais c'est vrai que ça fait mal aux gosses. Hey. Je ne sais pas, les filles, vous avez mal où, vous
Moi, j'ai mal à l'urètre. Ouais. C'est pour ça que je t'ai rendu allongée.
Parce que moi, j'écoute ça, c'est drôle. Ah. À nouveau, là. Tu sais, c'est rien que... C'était anciennement drôle de vidéo, là.
OK. Mm-hmm.
Avec
Dominique Paquette.
Fait que... Mais moi, j'aime ça, voir du monde se péter à gueule. C'est surtout que c'est souvent une décision de cave.
Sauf le moment où c'est dans l'entrejambe, on dirait ça.
Ah, mais moi j'ai mal souvent.
La tête, pis ça, là.
Ouais, mais tu sais, l'autre jour, c'est un jeune homme, peut-être adolescent, en skate, il décide de descendre une côte de même, en culotte courte, en camisole, ouais. Ça se fait, il l'a échappé, il s'est rompu une seule. Hey, j'avais mal. J'ai de la misère à la regarder, mais je continue à la regarder pareil. Chose, c'est assez terrible. Fait que...
D'ailleurs, mon hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission pour ça aussi. Là. Ton émission, toi.
Pourquoi
faire? Pour voir du monde se casser ailleurs.
OK. C'est ça que j'aime.
C'est ça que j'aime.
Tu sais, là, j'ai encore écouté une chirurgie botchée, là.
Oui.
Ils ont botché qui?
Mais là, on s'est botché pas pire la chirurgie. À matin,
elle voulait 2000 cc dans les seins, la fille.
Combien?
2000.
Ça, c'est 2 litres.
C'est des canisses.
On t'a proposé un reportage sur la guerre froide et t'as rechoisi chirurgie botchée. Oui.
Mais il fallait qu'il s'isole le pénis avant de parler de guerre froide.
C'est ça, exactement. Il fallait que ça reste au chaud. On s'arrête quelques instants et on vient avec les sujets de Nicolas. Puis mon documentaire sur Rosy, voulez-vous le savoir?
Oui.
Bruce Lee aussi. Bruce Lee, hey!
Bruce Lee.
Son frère, c'est son frère, Brocco, qui a demandé ça.
Si vous avez rien compris de ce qui vient de se passer, c'est là.
Ah, boy. Bon, on est de retour dans Dupont le matin. Et il y a eu un geste au hockey. Moi, je l'ai pas vu, honnêtement. Il y a eu un geste au hockey en fin de semaine, ou en tout cas dans les derniers jours, là, je sais pas quand exactement, où le frère de Piqué Subban a été victime de racisme.
Jordan
Subban.
Dans la East Coast League.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben, il y a deux joueurs qui... Lui, Subban, avec un autre joueur, Penetta. Jacob Penetta. Se chamaillait, se poussait. Puis Subban a invité Penetta à engager le combat. Lui, il a refusé. Puis aussitôt que Subban s'est retourné, Penetta, il a fait un signe comme... ça ressemble à un singe là, qui se gratte en dessous des bras. Puis ça ressemble aussi à un gars qui fait son tough un peu, qui se bombe les biceps. Donc, en voyant ça,
ça, Jacob Subban, Jordan Subban est retourné pour essayer de s'en prendre aux joueurs. Les officiels se sont interposés. Puis après, bien, il y a eu des paroles. Je pense qu'il y a eu des paroles aussi qui ont été dites envers Jordan Subban. Et on a expulsé Panetta. Ça a pris un peu de temps avant que la Ligue réagisse. Puis finalement, l'équipe des...
ils l'ont libéré.
Oui, Iceman de Jacksonville. Ils ont libéré Jacob Panetta.
Okay.
Il a fait une publication Twitter, j'ai vu ça hier soir tard, en s'excusant. Puis c'est lui qui raconte que c'était pas le geste d'un singe qui se gratte en dessous des bras qu'il faisait pour Jordan Subban. C'était plus qu'il a l'habitude de se bomber comme ça pour faire son frais sur la patinoire. C'est ça qui explique, lui, c'est sa version, après s'être fait sacré dehors. Là.
C'est
ça. Et après toute l'ampleur
puis
que ça
a. Il y aurait eu peut-être des propos racistes. Il y a eu le geste, soit singe ou soit Monsieur Musk. En tout cas, on va lui laisser
son explication
du
à lui. Là.
Mais là, regarde, de toute façon, il a été libéré et... Ouais. Mais, tu sais, on est rendu, c'est correct, mais on est à la limite de la sensibilité.
Ouais. Mais il y a eu un autre cas de racisme aussi dans le hockey, plus tôt la semaine dernière. Là, c'est un joueur du Barracuda de San Jose, c'est le club école des Sharks, Christophe Rabic, qui a tenu des propos racistes envers Bukunji Imama. Lui, c'est un joueur de Tucson, une équipe en Arizona. Puis lui a été suspendu pour 30 matchs par la Ligue américaine.
Dans cette la GMQ, ça,
oui, Bukunji. Bukunji Imama, Canadien, il a joué avec, il a joué à Bécomo, puis à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick.
Fait que c'est donc des propos graves, tout ça, mais en même temps, ça, c'est du racisme, c'est quelque chose. Mais quand j'écoutais le documentaire sur Ozzy Osbourne, là, il fut une époque où on pouvait dire à peu près n'importe quoi.
Oui.
Tu sais, c'était peut-être trop exagéré, mais en même temps, au moins, c'était pas caché. T'sais, aujourd'hui, là, s'il y a un artiste qui avoue prendre des drogues, eh ben attends, il va se faire il va se faire varloper right and left. Tu sais, puis les autres c'était connu.
Il y a des monologues d'Yvon Deschamps qui passeraient probablement pas.
Ah non, plusieurs passeraient pas parce que
et il est reconnu comme le plus grand humoriste.
Oui, absolument. Ouais, mais c'était ça, plusieurs. C'était regarde là, quand Radio-Canada, tu sais, Radio-Canada la petite vie. Je vous l'écoutez encore moi le samedi avant direct de l'univers, là, j'écoute ça ben des fois là. Puis ils avertissent que c'est une autre époque, je me souviens pas du
depuis
texte
depuis
exact.
Depuis l'épopée Norman Brathwaite.
Ouais, c'est ça. Fait que là ils font attention, mais tu sais, dans ça, moi j'écoutais un épisode il y a quelques semaines où c'était Jean Loup, là, il y en a un qui
il fait
l'homosexuel, c'est ça, puis ouais. Tu sais, c'est
une grosse caricature.
Une grosse caricature des homosexuels. Si c'était une quelque chose qui était fait là aujourd'hui, ça passerait pas, là. Non, c'est pas sûr que ça passerait pas. Mm-hmm. Mais je sais pas si à un moment donné, peut-être que le balancier va faire qu'on va avoir des oreilles un peu moins prudes ou qu'on va aimer un peu plus entendre la vérité que de se cacher, tu sais, que les gens se cachent.
Ben, des insultes, c'est jamais accepté, là.
Non, des insultes, non.
C'est de la discrimination, des insultes et tout ça, mais il y a des blagues qui, selon moi, devraient encore passer. Là, je vais at large, là, qui ne passent plus. Parce que oui, effectivement, il y a certaines personnes qui sont frileux. Là.
Ouais. Ouais. Mais quelque part entre les deux, la caricature a eu son temps, puis peut-être évidemment que c'est sain qu'on sorte de ça, mais l'autre aspect de ça, c'est d'être obligé d'avertir une génération complète que ça se peut que tu ressentes quelque chose quand tu vas regarder telle émission, tu sais, ils te le disent, ils ont tellement peur d'avoir une petite émotion qui est pas prévue que ils veulent tout savoir d'avance. Ah, si tu regardes cette émission-là, on va te parler de sexe et de cigarettes, puis là, ça se peut que t'aies une émotion. Fais attention ou regarde-la pas, tu sais. Tu peux pas vivre ta vie de même, c'est à ça. Un moment donné, là. Il va t'arriver des affaires imprévues dans la vie, puis tu vas avoir des messages qui seront pas en accord avec tout ce que tu penses, toi. Parce que le monde est pas fait pour être en accord juste avec tout ce que tu penses, toi. Puis c'est correct. Mais entre ça, puis la caricature qu'on a fait des homosexuels, puis si on continue à prendre ce cas-là, il y avait le moment donné, M. B qui jouait le français aussi dans la petite vie, qui était une grosse caricature avec la baguette en dessous du bras puis tout le kit. T'sais.
C'est vrai.
C'est des caricatures. La TV, c'est de la caricature.
Ben oui, puis c'est de l'humour.
Mais oui.
Donc, dans l'humour, il y a de la, caricature.
C'est pour ça qu'il faut laisser un peu aller. Là.
Ben oui.
Tu sais, il y a une nouvelle émission écrite par François Havard qui
le
moyenne
bonheur.
Le bonheur. Là, j'ai écouté un autre épisode en fin de semaine.
Ça part du prof, ça?
C'est le prof, lui, qui a pété une coche.
Qui parce ça, c'est tanné d'enseigner devant des jeunes qui, justement, sont un petit peu frileux.
Je pense que c'était très drôle, son monologue.
Oui, c'était très, très drôle. Puis, je pense qu'il s'attendait pas que ce soit percutant comme ça. Mais tu veux, il a pas eu à s'excuser. parce que c'était dans un cadre caricatural, exagéré. Donc c'est comment il s'appelle, Michel Charrette,
oui.
qui vraiment pète une coche.
Mais il a pas eu à s'excuser parce que c'est François Havard. C'est si ça. C'était un petit no-name qui avait écrit ça. Peut-être qu'on l'aurait forcé.
Ouais, peut-être.
Mais moi, si je fais l'avocat du diable, les gens qui font les blagues, là, il faut qu'ils acceptent que des gens n'accepteront pas.
Oui.
Et ils vont se faire ramasser aussi, là. On dirait qu'ils ont l'épiderme sensible, eux autres aussi, là.
Oui.
Aussitôt qu'ils se font critiquer, oh non, c'est pas ça, je veux Ben, accepte puis assume. En
Mais il faut.
On dirait que moi, là, si mettons quelqu'un se plaignait d'un commentaire que j'assumais, mais qui serait perçu comme un peu déplacé. Je m'excuserais. Est-ce que ce serait sincère? Peut-être zéro.
Ça, l'excuse, elle te revient. Si toi, tu penses que ça vaut des excuses, ça se peut que ça ne vaille pas d'excuses, puis tu assumes complètement ce que tu as dit.
Oui, mais la
faut que tu acceptes que la chaleur de la cuisine va monter un peu.
Ouais, la semaine passée, là, l'affaire de Julie Snyder, elle n'avait pas besoin de s'excuser, mais en même temps, je t'ai excusé.
Pour les enfants, ça?
Oui, c'est ça. T'sais, parce qu'elle a posé une question aux enfants, puis d'après moi, elle n'avait pas pensé à son affaire. Là,
pour plusieurs personnes, ils trouvaient ça scripté un peu, puis un peu malaisant par ça.
Puis c'est ça. Ils pensaient qu'elle s'était servie des enfants. Elle n'a pas fait ça. Ben, c'est clair.
Ben, le gag de ça, l'histoire de Julie Snyder, c'est que l'ombudsman de Radio-Canada est allé sur Twitter la semaine passée puis a dit, là, les gens qui se plaignent de l'émission de la semaine des 4 Julie, c'est pas diffusé à notre réseau. Fait que t'as des gens qui embarquent dans l'outrage...
Qui écrivent à Radio-Canada,
qui ont jamais vu l'extrait, qui savent même pas à quelle station ça joue
ça
la semaine des 4 Julie.
Ça
mais il embarque dans l'outrage parce que c'est à la mode d'embarquer dans l'outrage. Fait qu'il faut qu'il y ait une marge entre ce que tu dis, Ray, qui est effectivement, si tu...
Parce qu'ils font ça un peu pour provoquer.
Si tu envoies des messages puis t'aimes ça provoquer, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait un retour. Mais entre ça puis se faire... cancellé pour utiliser le terme à la mode qui n'existe pas en français.
Mais il n'y a plus de jugement, on dirait, là-dedans.
Non, mais tu dis, ils veulent provoquer. Tu sais, Ozzy Osbourne, dans son documentaire, je reviens, là, vous allez me trouver fatiguant, mais quand il arrache avec ses dents la tête de la colombe, puis ensuite la tête d'une chauve-souris, il dit, je voulais pas provoquer, je t'ai rien que défoncé. Et ça a bien de l'allure, là. Tu sais, ce gars-là a une vie. C'est pas pour rien. Le documentaire s'intitule « Neuf vies ». J'ai trouvé ça fascinant. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Tu sais, quelqu'un qui envoie tantôt des bonhommes qui pleurent en disant « Ah oui, Ozzy, il se droguait. » Mais moi, ce qui me...
Il est-tu riche?
Ce qui me frappe... Oui, riche à craquer à cette heure. Mais il a été pauvre de longtemps, là. Très, très longtemps.
Malgré sa conso, il s'est pas ruiné?
Non, pas du tout.
Parce qu'il a pas été dans une époque où c'était payant, là.
Pas au début, mais après, quand Sharon, qui devient sa femme, Sharon Osbourne, prend sa carrière, puis elle arrête de consommer à un moment donné, là, il commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais tellement, parce que c'est quand même dans les albums les plus vendus dans l'histoire de la musique.
Non, c'est Black Sabbath avant, là. Il était dans Black Sabbath avant, mais il a vendu là, plus il a vendu solo après.
Là. Il sort de Black Sabbath. Tôler raide, là.
Okay.
Il paye même pas sa chambre d'hôtel.
Okay.
Tu comprends? Premièrement, ce qui me frappe le plus, c'est que lui, c'est un petit garçon qui voit les Beatles Night, et, parce qu'il reste à Birmingham, en Angleterre. Puis, c'est que son premier musicien qui va former Black Sabbath avec lui, c'est le petit gars qui va dans la même école que lui. Puis, Ozzy dit que si son père avait pas accepté d'y prêter d'avance un genre de cadeau de Noël et de fête, 250 euros en valeur, pour s'acheter un guitare, un ampli puis un micro, il serait jamais où il est là. Puis il a commencé à jouer de la guitare tout seul, puis il a commencé, il était déjà...